Et maintenant, on passe au reportage du Calbourg qui va être présenté par Alexia, Maud et Elana avec des passages d'extraits à la pluie. Bonne écoute à vous.
Vous êtes toujours sur Cellula Radio. Maintenant, un peu de culture. Nous allons vous présenter un monument historique de notre région. Imaginez, vous êtes au Tréport, que vous vous baladez, que vous aimez les monuments historiques. Nous avons un monument très connu qui se situe au Tréport en Seine-Maritime et qui s'appelle le Calbourg, qui se situe sur la route du 8 mai 1945 sur la côte de la Manche. Vous pouvez vous y rendre par les marches du funiculaire. Le Calbourg était un camp militaire pendant la guerre contre les Allemands. Nous avons été accueillis par le responsable du musée. C'est lui qui nous a fait la première description du Calbourg.
Les Allemands qui étaient ici, c'était 60 soldats de l'infanterie de la Wehrmacht. Sur les 60 soldats, on n'avait que 15 simples soldats, et après, c'était une majorité sous-officiers, on n'a pas les chiffres précis. Les 278 de Ries ont été faits par qui? Ben, l'armée allemande allait rentrer chez nous fin juin 40. Ils auraient réquisitionné tous les hommes disponibles dans les 3000 sœurs et en race compagnie. Et ils le faisaient travailler de force pour eux. Ici, il y a eu les réquisitionnés de la région. Il y a eu les gens qui étaient dans le service transmigratoire que Pétain avait rendu après sa capitulation devant Hitler. C'était, je rappelle, pour votre information, tous les hommes français âgés entre 20 et 22 ans, ils étaient normalement obligés de travailler pour l'armée allemande. Et on a eu les Ukrainiens, ukrainiennes, eux qui étaient minoritaires. Tout ce qui est maçonnerie, c'était une époque, tout ce que vous allez voir, c'est des hommes pioches et piolets qui creusaient les galeries. Je rappelle, il y a 278 mètres. Et c'est des femmes ukrainiennes qui maçonnent. Calbur. Cal, c'est chauve, bur château. Château chauve, château plat. Quand vous regardez la façade, aucune tour. Ça porte bon à son nom. Voilà.
En poursuivant la visite, le guide nous explique comment le Calbourg a été imaginé et conçu.
Partout, il n'y a aucun mur en béton. Ben, c'est une question pour chauffer l'ouvrage. Je rappelle, il y a 270 mètres, il y a quand même 32 pièces, c'est immense. Donc ils avaient trouvé la solution, pas de mur en béton, c'est de la brique. Mais à l'époque, c'était voulu, c'est pour que l'ouvrage il soit facile à tempérer, alors il n'y a pas une grosse température, aux alentours de 19 degrés en température ambiante. Là, je vous donnerai un tas de détails que dans l'ouvrage, ils n'ont rien laissé au hasard. Vous voyez, les portes, elles ont été retirées par les ferrailleurs, ils en avaient le droit. C'est les portes principales qui ferment l'ouvrage. Sachez qu'elles étaient fermées, elles étaient étanches à l'air et à l'eau. Et sachez une autre information au passage, c'est que les portes n'étaient jamais pleines, toujours en deux parties. C'est dans le souci, s'il y a un encombrement, il y a un plan B, il y a la partie haute qui peut dépanner. Si on met une porte plane, c'est fait, c'est bouché.
Combien de temps a-t-il fallu pour construire l'édifice?
Alors l'édifice débute les travaux septembre 1942, un mois après le raid raté de Dieppe, du 19 août. Et inachevé, puisque l'armée allemande est partie brutalement, 30 août 1944, quand les Canadiens sont revenus dans la région et qu'ils nous ont libérés de l'emprise nazie, le 30 août 1944, le 1er septembre officiellement. 22 mois.
Entre deux salles, nous avons profité pour questionner notre guide sur le Calbourg. Quel est l'intérêt de ces bâtiments et quelles sont les forces et les faiblesses?
Quel est l'intérêt stratégique du Calbourg?
L'intérêt stratégique, c'était surtout... Il a été fait, déjà, il a été créé dans le cadre d'un débarquement dans le Pas-de-Calais. Et surtout après, donc, il a été fait pour une protection côtière. Protection du littoral sur une vingtaine de kilomètres. Criel Caillou, sur 12 km à l'intérieur des terres. Protection du village, parce qu'ils s'attendaient à un débarquement dans le Pas-de-Calais. Et finalement, on verra que l'issue de la visite, l'ouvrage, il a servi à rien, puisque le débarquement s'est fait en Bastogne-Lanty. Protection du littoral, protection du port, parce que le port soit investi par la Merlier. Protection de la gare SNCF, parce que tous les matériaux pour faire l'équipement de l'ouvrage est arrivé par voie ferrée. C'était fabriqué en Allemagne. Voilà.
Quels sont ses points forts et ses faiblesses?
Alors là, question un peu piège. Point fort, c'est qu'il était difficilement repérable, puisqu'il a été fait dans le sens du terrain. Donc il était quasiment très peu visible par avion. Et puis, c'était son point fort, je pense. Mais aussi, c'était sous ses postes d'observation que vous verrez que chaque poste d'observation, il n'y a aucun angle mort. La surveillance qu'ils avaient entre Criel et Cailleux, elle était très, très bien suivie. Quand vous verrez les points de vue côté plage, vous comprendrez mieux. Voilà.
En poursuivant notre périple, nous avons eu des informations sur l'électricité et les murs. Pour alimenter les 32 pièces, il a fallu trouver un système d'alimentation autonome. Deux générateurs pour la construction des briques ont été utilisés. Elles venaient des briqueries du coin, payées par la municipalité, et de la récupération sur des bâtiments détruits, l'hôtel Trianon. Nous avons essayé d'en savoir plus sur l'organisation militaire du camp.
Combien d'hommes le défendaient ? Par quelles pièces d'artillerie était-il défendu ?
Les hommes, on n'a pas le chiffre. Les pièces d'artillerie, il y avait, donc on avait sur les terrasses 5 canons de défense côtière et un canon anti-aérien pour l'aviation. Et après, des nombres d'hommes, on n'a pas le chiffre précis de ce qui était le commandant. Ici, on sait qu'il y avait une soixantaine. Mais après, sur le terrain, c'est autre chose.
À la fin de la guerre, de nombreux pillards sont venus récupérer mobilier, ferraille, objets, bois, etc. Mais l'association qui gère le musée se charge petit à petit de restaurer, trouver ou acheter des éléments d'époque. Nous avons pu voir des bureaux, des chambres, des salles de stockage, la salle des communications. Et à chaque fois, le guide nous expliquait le fonctionnement et la décoration de chaque lieu, comme par exemple dans cette pièce.
Vous verrez que les plafonds du Calmur sont tous en demi-lune. C'est parce qu'au-dessus, je rappelle le terrain, la rue du 8 mai, on a les 100 mètres, hein, le terrain est en forte inclinaison. L'épaisseur de la voûte, elle fait que 22 cm. Et sachez que sur les pièces et les couloirs, la craie est beaucoup plus haut. Il y a un vide d'air de 30 cm. Et ça, c'est en cas de bombardement. Il y a eu des bombardements. Ben, le vide d'air, il casse les ondes de choc. Et l'ouvrage, il en devient indestructible. Et le Calmur, à l'époque, il était indestructible. Là, vous verrez la ventilation naturelle. Le conduit était très court. Sachez qu'on a toujours un peu d'air ici. Là, on a un peu d'humidité, c'est quand l'air est humide. Et il était en plus rouge, il était court. Par contre, celui-là, il n'était pas en bleu. Vous voyez la chandelle qui le soutenait. C'est un conduit qui avait de l'air propre. Pourquoi ? Sachez que s'ils avaient une attaque par les gaz extérieurs, chimiques, toxiques, moutarde, ils fermaient les grosses portes que je vous ai montrées à l'entrée, qu'elles sont étanches à l'air. Les 6 portes sont fermées, l'air extérieur ne rentre plus du tout. Mais il est traité, et il ne pouvait en aucun cas mourir gazé avec ce système. Voilà.
Après nous avoir fait profiter de la vue que nous offre le Calmur sur le port et les plages, nous avons poursuivi la visite avec un deuxième guide, la petite fille du premier guide. Elle nous a amené voir deux pièces où il faisait froid.
Juste ici. La pièce à ma droite et à ma gauche sont deux pièces identiques. Vous la verrez un tout petit peu plus loin. C'est une pièce qui n'est pas briquetée, elle est en craie brute. On l'a su il y a maintenant 4 ans, on a un expert qui est venu et qui nous a dit de fermer qu'une porte en bois bien épaisse et mettre un thermomètre à l'intérieur. On l'a fait, on a rouvert 3,8 degrés, température d'un frigidaire. C'est deux garde-manger. Chaque garde-manger avait un approvisionnement de 3 mois. Comment la fraîcheur va se garder ? C'est très simple, c'est de la craie brute, il n'y a pas de briques. Et il y a un mur d'à peu près 1,60 m de haut qui comprime l'air pour la garder une fois fermée. Vous verrez quand vous rentrez dedans, vous ne verrez pas la différence puisque c'est pas fermé. Chaque garde-manger avait un approvisionnement de 3 mois, donc ce qui faisait 6 mois eux deux sans devoir sortir, et celui-là c'était pour la nourriture et l'autre pour les boissons.
Réchauffons-nous maintenant dans les quartiers des officiers. La guide nous a expliqué le quotidien des Allemands.
Juste ici, chambre d'officier. Pourquoi dans le Calmur, le grade comptait ? Je vous rappelle, soldats avaient un simple dortoir, sous-officier, une chambre, ils étaient 3 dedans, avec lit, plus paillasse, plus matelas. Les chambres d'officier, ils avaient lit de place, plus matelas, mais aussi un lavabo pour se laver. Il n'y avait pas de douche ni de bain, il faut savoir qu'il faisait 3 jours dans le Calmur. 2 jours en détente aux copines du golf, vous avez douche et bain à volonté. Ici, simplement des lavabos dans les chambres d'officiers. Juste au-dessus de moi, une citerne d'eau potable de 13 mètres cubes d'eau. Cette eau potable était remplie par un camion citerne, parce que juste au-dessus, c'était une plaque d'égout, comme on verra par l'issue de secours juste après, quand on montera les 90 marches. Faut savoir que l'eau potable qui était ici, elle n'était pas bue. Faut savoir que c'était tout embouteillé pour les Allemands, mais c'était pour laver les parquets à grandes eaux. Les Allemands étaient très à cheval sur la propreté, il fallait de l'eau potable pour laver les sols. C'est donc pourquoi dans chaque pièce, il y a un tout à l'égout pour évacuer les eaux, puisqu'on lave les parquets à grandes eaux.
Pour finir cette visite, nous avons à nouveau interrogé notre premier guide pour qu'il nous parle du musée et de son quotidien.
Qu'est-ce qui fait que ce lieu est emblématique?
Si emblématique, on a par les réflexions qu'on a des visiteurs, c'est que c'est l'ampleur de l'ouvrage. De la manière dont il a été construit, de moins qu'il a été, il a été conçu. Alors le maître d'œuvre du Calbourg, c'est l'organisation Todd.
Combien de personnes visitent le Calbourg par an?
Il faut attabler sur une moyenne de 3 000, 3 500 personnes.
Ah, quand même.
Ah oui.
Quel est l'intérêt de préserver le Calbourg? Peut-on le considérer comme un lieu de mémoire?
L'intérêt, c'est qu'il ne tombe pas dans l'oubli, qu'on ait toujours des bénévoles qui sont là pour perdurer, faire continuer à faire visiter l'ouvrage, puis toujours l'améliorer, l'équiper. On veut qu'il devienne un musée, mais là, c'est pas encore la peine. On y arrive, mais tout doucement.
Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je vous rappelle que le Calbourg se visite en réservant sa place auprès de l'Office du tourisme. N'hésitez pas à joindre l'association si vous voulez leur apporter un coup de main ou les aider à compléter leur collection. Merci de nous avoir écoutés.